conferences de Radio Languedoc. Torna mai conferences per aquest cop amb un registrament realitzat pendent la 40a Universitat Occitana d'Estiu de Nimes en 2016. Aquí, una conferència preparada per Jean-Yves Agar, docteur en sociologie. Une conférence titulée « L'Occitan comme facteur de développement du territoire ». À quelle conférence vous êtes registrée le 12 juillet de 2016 au Centre Agora de Nimes.
Juste un mot pour présenter Seigné Agar, donc, qui est sociologue et qui nous arrive de l'UN à l'Aïd et les Mousies. Et donc, nous merci Jean Force d'être venu ici pour nous présenter quel travail qu'a fait, qui travaille sur l'anthropologie des territoires et amène une étude sur l'Occitan dans le développement des territoires qui aussi peut avoir un impact. Et donc, nous savons que l'Occitan peut être étudié purement par intérêt culturel, mais c'est vrai qu'à l'entour de nous, la collectivité territoriale, tout ce qui est l'us politique, sont plus sensibles souvent à d'arguments utilitaristes et souvent avec des mal de, où nous ne croyons pas quand nous disons que l'Occitan peut être utile dans le tourisme et dans tout accord. Donc, j'espère que vous l'ayez avec quiconque sur le sujet. Et donc, à quelle conférence, il faut déjà présenter à l'aide dans le pays les Mousies et à recoublade avec une présentation de que faisait le parc naturel régional des Périgord les Mousies per la langue occitane ou per l'intégrer à la politique de développement. Donc, à côté, il y a un renforcement intéressant. Le jour que pourrait faire parier à qui, en le parc national de la Cévenne, il serait un plat content, parce que nous sollicitons régulièrement et pour le moment, il n'y avait pas gagné des retours. Donc, est-ce pas l'avenir nous dira aussi à quoi c'est avance. Mais pour le moment, on a écouté votre présentation.
Merci Flo. Bonjour, bref monde. D'un premier, je voudrais dire grand merci pour la convidation chez Flo Nora. Mais ne pourrais pas faire la présentation complètement en occitan, parce que je suis un étudiant en occitan. Et ne pourrais pas parler couramment. Je vais donc passer au français, je suis bien désolé, mais peut-être l'an prochain j'arriverai à tenir le choc en occitan. Alors je viens venir de l'UEM, venir des septentrions, des nord de la vieille Aquitaine. Et Aïwei, qui est du centre, du barycentre de la nouvelle Aquitaine, parce que le Périgord, maintenant, exactement l'endroit où nous habitons, d'ailleurs, l'endroit où nous habitons, c'est la double, c'est l'extrémité ouest du Périgord, c'est un massif forestier, c'est exactement le centre de la Nouvelle-Aquitaine. Alors, je ne vais pas entamer le débat avec le nom de la Nouvelle-Aquitaine, parce que là, on va susciter, je pense, encore beaucoup de réactions, mais c'est vrai que c'est un véritable problème. Alors, je suis socio-anthropologue et je travaille dans un laboratoire de recherche qui dépend d'une école de commerce, donc je suis une sorte de bizarre, parce que l'anthropologie en école de commerce, ça paraît assez bizarre. Chaque fois, je me demande, mais qu'est-ce que vous faites comme métier? Qu'est-ce que vous êtes là? Eh bien, c'est l'étude des cultures, la plupart du temps, et notamment, bien sûr, là, au service de l'économie. Et donc, il y a de plus en plus de chercheurs qui, maintenant, essayent de travailler sur des sujets. Et je fais partie d'un cluster. Alors, c'est un mot qui n'est pas très... Mais bon... Enfin bon, il est quand même d'origine latine, on ira, d'industrie créative, culture et sport. Alors vous voyez, c'est déjà il y a des mots qu'on ne pas forcément comprend immédiatement, mais moi je vais m'intéresser aux trois premiers, c'est-à-dire industrie créative et culture. Alors qu'est-ce que c'est que les industries créatives? Les industries créatives, pour que vous compreniez ma démarche, c'est l'ensemble du secteur économique qui, dans leur production, intègre une partie de création pure. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est un secteur qui est extrêmement large, qui va bien sûr des arts, hein, le cinéma, le théâtre, la danse, la musique, l'écriture, la télévision, la vidéo, la musique, bien sûr la musique, et qui va associer aussi d'autres parties auxquelles on pense moins, comme la gastronomie, comme la viticulture, comme l'œnologie, comme le no-tourisme. Et là, dernier point, c'est aussi le tourisme et tout ce qui concerne le tourisme. Donc, moi, je suis anthropologue et je travaille dans une école de management. Alors, sachez que management, maintenant, on dit tout management. Ça vient quand même d'un mot latin, hein, qui vient de la main au départ. C'est celui qui fait. Alors, moi, j'ai un peu de problème avec ça parce que chaque fois que j'enseigne à mes étudiants, je leur dis, vous êtes dans une école de management. Donc, en fin de compte, vous êtes dans une école technique. Hein, c'est plutôt vous mettre à la... On vous demande maintenant aussi de penser. Donc, si on a des soucis avec le management, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas assez de pensée aussi. Hein, donc, bon, là, c'est un petit trait d'esprit. Je ne suis pas sûr d'avoir réussi. Mais voilà, je tenais à vous dire ça. Donc, nous sommes dans un laboratoire de recherche qui va s'intéresser à comment la culture peut être un levier de développement. Et moi, plus particulièrement, étant donné que je suis foncièrement occitan, je suis né dans le Nord Périgord, hein, le Périgord, qui est encore un département. Il y a un monsieur qui a posé le problème tout à l'heure de ce découpage territorial tout à fait bizarre, sachant que pour une fois, le Périgord, ben, lui, c'est l'ancienne région. C'est l'ancienne région royale qui a repris. Eh bien, linguistiquement, on est complètement écartelé, puisque au nord, c'est coupé en deux. Pratiquement, au nord, nous sommes en territoire limousin, et au sud, dialecte limousin, et au sud, nous sommes en languedocien. Et si on va un petit peu carrément à l'ouest, on a un petit bout de Gashkoum. Et pour nous, Gashkoum, c'est carrément une langue étrangère, surtout quand vous essayez de l'apprendre à 57 ans. Bien, alors, je vais commencer tout de suite sur la problématique générale, qui est la lingua regionale, une ressource estratégique défrozzato. Alors, moi, j'ai traduit ça par langue régionale, une ressource stratégique gaspillée. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire? Eh bien, ce qu'on veut dire, c'est que la plupart des entreprises, la plupart des élus, si on remarque ce qui se passe, oublient systématiquement, notamment dans notre région, un facteur qui pourrait être la langue régionale comme facteur de développement. D'accord ? Et elle n'est pas utilisée par les entreprises comme un élément de discrimination. Alors, vous savez que dans les écoles de management, on enseigne la stratégie. Alors, la stratégie, vous pouvez avoir en tête ce qu'on appelle guerrier. Hein, on va conquérir des marchés, on va s'attaquer. Mais maintenant, la conception moderne du mot stratégie, c'est de se différencier. C'est assurer la pérennité d'une activité par une différenciation. Et c'est tout ce que se font en train de faire les territoires actuellement, se nommer pour être différenciables. Alors là, on ne va pas revenir sur le sujet de Occitanie ou pas Occitanie, etc. Mais on est vraiment au cœur du sujet. Alors, lorsqu'on veut essayer de traiter de cet élément de différenciation, le élément de différenciation, c'est un élément de différenciation pour être attrayant sur notamment l'extérieur. Mais moi, en tant que sociologue, je ne vais pas simplement me dire « je vais réfléchir à ce sujet pour voir ce qui se passe entre mon territoire et comment je peux faire venir des gens ici pour le découvrir, pour... » partager, pour partager notre culture, hein, pour faire du tourisme, pour les faire manger, pour les faire dormir, pour les faire se divertir, pour les faire danser, pour les faire, voilà, ce qu'on appelle la vie. Mais c'est aussi pour savoir comment on peut, à l'intérieur d'un pays, recréer ce qu'on appelle une histoire de cohésion. Et on va voir que notre État français a, depuis belle lurette, alors je voudrais bien savoir comment on dit belle lurette en occitan, je ne sais pas le dire, mais nous on dit depuis Louis Padel. Dempuy Louis Padel. Bon, je sais pas ça, je crois que c'est purement limousin, mais belle lurette, bon, faudra me dire hein, comment on dit ça. Mais depuis belle lurette, on a l'État français a fait en sorte que, eh bien, on essaie de faire une sorte de confusion totale sur ces territoires. Alors, chaque fois qu'on veut réfléchir sur ces sujets-là, eh bien, il y a des notions émergentes qui apparaissent. Et ces notions émergentes, elles touchent à la fois le symbolique, elles touchent bien sûr le politique, on vient d'en parler, et puis elles touchent aussi l'affect, et vous pouvez voir comment chaque personne réagit systématiquement. Et là, moi, en tant qu'anthropologue, je vais un petit peu du côté de la psychologie, mais on regarde ce qui se passe, comment l'affect va intervenir sur les comportements. Quand on parle du cœur, de ce que l'on est, de sa propre culture, on est touché. Et bien sûr, c'est l'histoire symbolique. Et il y a à peu près trois grandes notions qu'il va falloir peut-être essayer de se colter, de se coltiner. Hein. C'est la notion d'identité. Les occitanistes en parlent depuis très très longtemps, se battent, se fracassent, se conspuent. Enfin, il y a tous les systèmes. L'histoire d'un territoire, on en a parlé immédiatement. Et puis, on a quand même cette notion fondamentale qui est étudiée par l'anthropologie, qui est celle de la diversité. La diversité. Qu'est-ce que c'est que la diversité ? Alors, vous voyez, tout ça, on pense pouvoir donner une définition assez rapide. On va voir que ces définitions, eh bien, c'est assez complexe à définir. Alors, tout ça, c'est lié à ce qu'on appelle, bien sûr, la culture, principalement la culture, puisqu'elle travaille sur ces notions-là. Alors, avant de pouvoir diverser ou essayer de parler sur ce sujet, il va falloir se poser la question. Ma question principale, c'est les identités linguistiques en soutien du social et de l'économie d'un territoire. Hein. C'est à la fois les entreprises et en même temps le social, c'est-à-dire comment on va faire pour que les gens sur un territoire se sentent appartenir à ce territoire et aient envie de fonctionner sur ce territoire. C'est le fameux slogan des années 70, « Volem viure al país ». Ça, vous vous dites pays hein, ici. Nous, on dit pays. Nous, on est feignants. Hein, les limousins sont feignants. On ne prononce pas la fin des mots. Hein. Et alors, par contre, on chuente partout. Mais c'est-à-dire, on veut vivre au pays et on veut créer l'activité. Quelle a été, regardez-vous, dans toutes vos stratégies d'études, ce que vous avez fait dans votre temps, qu'est-ce qu'on fait généralement ? Eh bien, on va étudier à la capitale régionale, on va étudier à l'autre capitale, mais en tout cas, on ne reste pas au pays. Très, très. Et puis après, à un moment donné, on revient, on essaye de retrouver du travail, et c'est toujours extrêmement compliqué. Alors, pour pouvoir traiter ce sujet-là, il faut avoir un petit peu de distance critique, un, avec l'actualité politique. Alors, moi, je ne veux pas traiter du sujet, moi, je ne suis pas capable de le faire, hein. Vous allez voir, sinon c'est l'émeute dans la salle tout à l'heure, la recrudescence du débat identitaire, il y a trop de tensions là-dessus, la non-ratification de la charte des langues régionales du fait de la France, là encore une fois, on a un grand problème avec ce sujet-là, le redécoupage des régions qui pose grand problème, on le voit actuellement. Et puis il y a l'actualité anthropologique qui me concerne un petit peu plus, eh bien, c'est la disparition des langues dites minoritaires. Là, je commence généralement mes conférences en disant « Dans 5 ans, mon père est statistiquement mort ». Et ça fait réfléchir tout le monde. Mon père, c'est celui qui détient, comme vous savez, la fameuse image que l'on donne du vieux savoir africain, celui qui meurt, c'est une bibliothèque qui disparaît, qui s'éteint. Eh bien, papa va mourir d'ici 5 ans. Et papa, il va emporter avec lui toute la langue, toute la connaissance, etc. Et il ne me l'a pas transmise. Et avec lui, part tout un pan culturel, toute une diversité, sachant que la diversité, c'est la vie. On l'a prouvé en chimie, on l'a prouvé dans tous les domaines. Alors, posons le problème du rôle de la langue. Alors, le rôle de la langue, la plupart des anthropologues sont maintenant d'accord pour dire que, un, la langue, ça favorise la cohésion sociale. Bien sûr, c'est le moyen de rentrer en relation. Ça peut aussi engendrer des conflits, mais c'est aussi un moyen de communiquer. Deux, ça permet de socialiser. Et la socialisation est un grand thème, encore une fois, d'un anthropologue. Il s'intéresse à comment quelqu'un va faire partie d'un groupe ou pas. Donc, il y a les trois lieux de socialisation, habituels, famille, école, et puis le lieu de travail. Et puis, deuxièmement, elle permet l'identification et l'adhésion à ce groupe. Et elle va permettre aussi ce qu'on appelle l'implication dans la communauté et dans le territoire. Alors, j'espère que vous êtes à peu près d'accord sur ce sujet-là, mais bon, ce n'est pas trop controversé. Alors, nous allons, si on part de ce constat, on va essayer de regarder la question suivante. Si les revendications positives linguistiques, je parle bien de positif, hein, c'est-à-dire que là, on essaie, nous, après, de convaincre l'économique. Hein, on va aller voir une entreprise. Est-ce que vous pensez que c'est intéressant d'utiliser, par exemple, une croix occitane, un logo, un terme, un nom pour pouvoir commercer, pour pouvoir présenter vos produits, pour pouvoir vous distinguer ? Eh bien, va dans la revendication positive de la langue, dans sa mobilisation, dans les dimensions symboliques, iconographiques, une croix occitane, communicationnelles, culturelles ou commerciales, va favoriser, un, la différenciation et l'attractivité du territoire. Et là, il y a une notion qui apparaît, c'est un territoire à vocation créative. Alors ça, c'est un peu bizarre comme notion. Je vais essayer de la définir. Alors, pourquoi parle-t-on de territoire créatif ? Eh bien, pour les territoires à forte référence identitaire, on a constaté un lien très très puissant entre trois facteurs. Alors là, je vous ai mis, je vais peut-être poser des questions de colle. Vous repérez, je pense, assez facilement deux drapeaux. Le troisième, le Tibet. Non, c'est pas le Tibet, c'est la Réunion. C'est l'île de la Réunion. Donc c'est un drapeau qui a été construit très très récemment. Et voilà, donc qui est maintenant utilisé dans la publicité pour ce territoire. Donc il y a un lien puissant entre la pratique de la langue, deux, la fierté d'appartenance, et trois, les politiques culturelles et communicationnelles. Et là, on a un début de définition de ce qu'on appelle un territoire créatif. Si il s'ajoute à ce que je vais vous expliquer maintenant, c'est que on va dans un territoire dit créatif, en matière touristique et en matière de développement économique, si la culture et la langue va être utilisées comme une ressource stratégique, qui est dans la définition de ce qu'on appelle la destination créative, c'est-à-dire différenciante. Et elle va être mobilisée par les parties prenantes. Encore une fois, les parties prenantes, c'est du jargon de Sciences Po et du jargon d'économistes et de managers, c'est tous ceux qui interviennent sur un même sujet ou sur un même territoire, de tout niveau, et c'est ça la nouveauté, en réseau solide. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'une région créative, ça ne va pas être une région où il va y avoir une tête qui va décider pour tout le monde, et vous allez vous aligner et vous allez faire tout ce qu'on vous dit, mais ça va être une région qui va aller questionner les ensembles de ses parties prenantes sur le territoire, du plus petit au plus grand, du plus grand au plus petit, et notamment en prenant bien sûr les institutions, qui sont des facteurs structurants dans les définitions des politiques culturelles, mais également les acteurs culturels, et là on a immédiatement les industries créatives qui résonnent à vos oreilles. On parle des artistes, on parle des designers, on parle des musiciens, on parle des conteurs, on parle des chanteurs, on parle, etc., des dessinateurs, des peintres, et on va non pas aller les chercher à l'autre bout du monde, à l'autre bout de la capitale ou à New York, on va essayer de les trouver sur le territoire. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils sont en lien avec ce territoire, ils sont en lien avec cette histoire qu'ils possèdent ou qu'ils devraient posséder. Les créateurs au sens large, ça peut être par exemple un artisan, et bien sûr les acteurs économiques qui, eux, vont devoir communiquer, décider et parler entre eux pour pouvoir produire ce qu'on appelle les effets d'une région ou d'un territoire créatif. Alors, j'espère que vous commencez à saisir vers quoi on va. Et moi, je me suis intéressé à un cas particulier, qui est celui de chez moi, qui est le Périgord. Le Périgord avec, alors vous voyez cette fameuse carte. Alors, je ne sais pas si vous avez marqué, qui est-ce qui n'a jamais été en Périgord ? En Périgord, ben, les gens qui viennent de l'extérieur, ils ont entendu parler à gros de foie gras, quoi d'autre ? De truffes, des grottes, de Dordogne, et puis de Jacou le croquant, pour ceux qui étaient dans les années 60, qui avaient la télé. Voilà, voilà. De belles maisons, voilà. Donc, et puis, on voit, qu'est-ce qu'on voit derrière ? Eh bien, on voit cette carte, vous voyez, du vert, du blanc, du noir et du rouge. Eh bien, ça, c'est tout ce qu'on appelle les acteurs territoriaux qui ont fait des politiques complètement contemporaines, inventées, et qui fondent ça sur, disant que c'est sur la tradition. On va revenir tout à l'heure. Alors, moi, je me suis questionné pour me dire, OK, je suis en train de définir ce que c'est qu'une région créative, un territoire créatif, et j'essaye de voir si le Périgord, on peut le qualifier de territoire créatif. Est-ce que ça se passe comme ça, ici ? C'est-à-dire une zone où la créativité a émergé comme dispositif de positionnement additionnel par la culture. C'est-à-dire qu'on va se fonder sur la culture pour développer le territoire comme un outil puissant de développement. Vous imaginez ça ? Est-ce que vous faites ça dans votre département ? Est-ce qu'on fait ça dans la région ? Est-ce qu'on fait ça à Paris ? C'est la culture qui va décider de ça. Eh bien, c'est ça ce qu'on appelle en management, nous, un territoire créatif. C'est un territoire qui va penser immédiatement son développement en se le fondant sur la culture. Et la culture, qu'est-ce que c'est ? Pour nous, c'est aussi notre langue. Voilà. Alors voilà, moi, ce que j'ai essayé de questionner. Et vous allez rendre compte que ça ne marche pas si bien que ça, en Périgord notamment. Et on a également de gros, gros, gros problèmes. Alors, les sous-questions. il faut poser d'autres questions. Une fois qu'on a posé ce problème-là, les langues régionales comme vivificateurs du territoire, c'est ce que j'essaye de dire. Est-ce que les langues minoritaires, qui sont le marqueur principal de l'identité, hein, vous questionnez les anthropologues, la langue, c'est ce qui est le marqueur identitaire principal. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit là. Moi, je suis provençal, chez Limougi, chez Gashkoum. À chaque fois, ça remonte. Hein. C'est votre langue qui décide. Sont-elles des facteurs de différenciation efficaces ? Est-ce que le recours à des notions qui sont maintenant partout, si vous ouvrez les yeux, si vous ouvrez la télévision, vous ouvrez la radio, Internet, vous allez rechercher les mots. Mais je pense qu'à partir de maintenant, vous allez les repérer, puisque je vous le dis, faites juste sur 3 jours. Regardez le nombre de fois qu'on vous parle d'authenticité. D'authenticité, d'altérité, de tradition et de sentiment d'appartenance. Ces mots-là, ces notions, ces concepts, sont-ils des éléments d'attractivité d'un territoire pour l'extérieur, c'est-à-dire les touristes ? Est-ce que je vais les faire venir avec ça ? Regardez ce qu'on a derrière. On a un magnifique arène romaine derrière. Authentique. Là, il n'y a pas plus authentique. Hein, d'accord ? Est-ce que je les fais venir avec ça ? Oui, vous les faites venir avec ça. C'est l'argument principal. Est-ce que je vais aussi, grâce à cela, avoir un élément puissant de cohésion sociale ? C'est-à-dire, est-ce qu'un Nîmois, il va être content d'être à Nîmes parce qu'il a sa culture qui est derrière, qui le soutient, il a envie de la valoriser, il a envie de la faire travailler ? Et là, on a les deux axes, hein, l'extérieur et l'intérieur. Alors aujourd'hui, on ne va surtout pas résoudre des problèmes hein, que moi, je ne sais pas résoudre non plus. C'est le débat entre identité nationale et identité régionale. Hein, sinon, je crois qu'on va tirer les armes. L'opposition, en gros, de la Respublica du contrat social 19e siècle, post-Rousseau, hein, avec l'ethnicisme et puis ce qui nous gangrène actuellement. Hein, c'est le repli identitaire avec des choses qui deviennent de plus en plus immondes et qui deviennent... Les gens ont repris une parole lâchée. Et puis, ce que j'appelle le rejet de l'autre ou l'apologie du semblable. Je ne suis bien qu'avec les miens, qu'avec les mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Donc, c'est pas ça qu'on traite, ça. Nous, on traite en ouverture. On traite en ouverture, culture en ouverture et en diversité. Alors, les premières notions à mobiliser. La première notion à mobiliser, c'est celle de territoire. Alors, quand on travaille sur le territoire, qu'est-ce que c'est qu'un territoire anthropologique ? Eh bien, il y a beaucoup de notions qui peuvent nous aider à comprendre, mais ça nous perturbe tout autant. Qu'est-ce que c'est un territoire en géographie ? Qu'est-ce que c'est en économie ? Qu'est-ce que c'est en histoire ? Et qu'est-ce que c'est pour l'anthropologue ? Eh bien, on se rend compte qu'un territoire, c'est principalement, en anthropologie, une représentation des acteurs. C'est un phénomène objectivé qui est fantasmé. C'est-à-dire que c'est une histoire de représentation. Regardez les débats de tout à l'heure, on voit, on est dans l'affect. Hein. Bon, certes, il y a des éléments objectifs, mais on est quand même dans l'affect. Si je prends la notion d'Aquitaine, comme ça on ne va pas traiter des problèmes d'Occitanie, enfin du terme purement Occitanie, Aquitaine du XIIe siècle, celle de Guillaume IX, celle de Aliénor, notre Aliénor à nous, hein, vous savez, la mère de Richard. Richard, il a été tué à 20 km, il a été chez monsieur, voilà, à Chalut. Un salut. Tout ça pour une bêtise en plus. Mais enfin, vous savez que Richard, il parlait quelle langue, Richard ? Il parlait principalement occitan. Hein. Il parlait certes un peu de langue d'Oil, il parlait le proto-anglo quelque chose qui n'existait pas encore, mais il a écrit en occitan. Donc c'est un roi anglais. Nous, on est chez nous, on dit ah ben les Anglais nous envahissent. Ben, j'ai envie de leur dire, je suis désolé, mais ils étaient là un bon moment. Hein, et bon. Alors qu'est-ce que c'est cette Aquitaine du XIIe siècle comparée à l'Aquitaine de la région de la Ve République avant les quelques mois qui ont précédé ? Eh bien, ça n'a rien à voir. C'est complètement... on a des distances, on a des territoires qui ne sont pas couverts. Poitou en faisait partie, etc. Et puis, plof, on a actuellement à nouveau une sorte de nouvelle Aquitaine qui ressurgit, qui est surtout une ancienne Aquitaine. Hein. Alors, la question se pose, c'est quand vous voulez faire la promotion d'un territoire, quel territoire allez-vous, quelle carte allez-vous choisir pour faire une politique touristique ? Comment vous allez vous nommer ? Comment vous allez vous dire ?
Las conferencias de Radio Languedoc.
Regardez ça. Moi, j'ai pris l'ancienne carte d'Aquitaine. On a notre Occitanie là. Hein, Et puis, et on a encore un problème encore plus prégnant avec le découpage de la Nouvelle-Aquitaine qui englobe le Poitou-Charentes et le Limousin. Si vous demandez à un Poitevin c'est quoi l'Occitanie, il vous regarde et il ne comprend pas. Alors, je ne veux pas réanimer le débat de tout à l'heure, mais c'est quand même, il y a un point positif, c'est qu'il y a tout un tas de personnes qui maintenant vont enfin connaître le mot d'Occitanie. Et je le dis vraiment, enfin connaître le mot d'Occitanie. C'est, madame, je reste très, je vous explique, hein, c'est une des vertus, hein, c'est une des vertus de cela, dans tous les. Alors, quelle carte choisir pour une politique touristique? Alors, il y a une phrase célèbre qui dit que la carte ne fait pas le territoire. Alors, il faut donc, pour pouvoir avoir une proposition politique territoriale intéressante, il faut, et là je parle en tant qu'anthropologue, proposer le plus de cohérence, c'est peut-être le maître mot de la présentation, le cohérence culturelle possible. Et la cohérence culturelle, ça se fonde sur quoi? Eh bien, ça se fonde sur des critères historiques, linguistiques, qui sont les deux critères majeurs. Et puis aussi, il faut tenir compte des multi-appartenances imbriquées. Regardez le cas de la Nouvelle-Aquitaine. Nous avions nos amis basques, qui sont pour nous des exemples. Hein, franchement, dans la politique culturelle, hein, ce sont des exemples. Et puis sur la fierté d'appartenance et la volonté d'être sur le territoire. Ils nous ont montré des choses. Ils ont été, je ne sais pas si vous avez rencontré David Gros-Claude, etc., qui a pu vous parler de tout ça. Et puis, mais on a un problème. On a des multi-appartenances imbriquées. Nous avons les gens du Poitou. Bien sûr, maintenant, on a nos amis limousins, qui sont pour moi des gens d'ici, hein, qui sont faits. Et puis, c'est de comprendre et proposer l'identité, mais en ouverture et pas en fermeture. Alors, deuxième point, un territoire, c'est aussi une expérience ethnographique. Alors, j'aime bien cette sentence. Pourquoi? Parce que je prends l'exemple de la Bretagne. Eh bien, un territoire est une expérience ethnographique. Quand vous partez en Bretagne, eh bien, dès que vous arrivez en Bretagne, tout vous dit que vous êtes en Bretagne. Il y a la géographie, les couleurs, la pierre, les espaces, les paysages, le patrimoine. Il y a la nourriture, il y a les commerces, les logos, tous les acteurs économiques, les acteurs culturels, les acteurs politiques se sont emparés d'un signe. Alors là, bon, bien sûr, là, vous avez le drapeau Braise-et-Bête ici, avec l'hermine, etc. Mais immédiatement, vous savez où vous êtes. La façon de construire ces monuments, les drapeaux, les enseignes, tout vous parle en tant que breton. La façon de se regrouper, un festoz, vous êtes occitaniste ou occitan, vous savez ce que c'est qu'un festnoz, et vous savez que c'est relié à la Bretagne. Ça fait partie de la culture bretagne. Les horaires, les modes de vie, la nourriture, tout vous parle. Donc on a ici géographie, architecture, signalétique qui sont absolument cohérents pour fournir un ensemble de représentations puissantes et des signaux vers l'extérieur. On parle là de signaux sémiotiques vers l'extérieur. Et un des résultats de ceci, c'est que la plupart des représentations collectives, qu'est-ce que c'est qu'une représentation? C'est, moi je vous dis, on ferait un sondage ici, je vous donne tous une feuille de papier, dites-moi en 15 mots qu'est-ce que c'est la Bretagne, et vous allez me sortir un certain nombre de mots, et vous allez peut-être me ressortir ce que je viens de dire. Et on va voir qu'il y a une grande cohérence, une puissance de production de signes qui collent aux perceptions. Vous retrouvez les signes que vous aviez envie de trouver. Donc en tant que touriste, vous allez vers un exotisme. En tourisme moderne, on parle d'exotisme proche. On ne va pas forcément chercher au bout du monde l'exotisme, on peut le trouver ici. Vous allez avoir des gens de Catalogne, des gens de Barcelone qui vont venir dans le Tarn actuellement grâce à une politique touristique extrêmement efficace et extrêmement particulière sur l'occitanisme et qui vont, eux, se nourrir de cet exotisme proche à 500 km. Ils vont découvrir ce qu'on appelle l'exotisme proche. Alors, j'en reviens encore à cette histoire-là. Lorsque les territoires, les représentations collectives collent aux perceptions, eh bien, on a un territoire qui se dit. Et un territoire qui ne se dit pas n'existe plus ou n'existe pas. C'est pour ça, c'est peut-être un des arguments par rapport à la discussion que vous avez eue tout à l'heure. Une des vertus quand même de l'apparition et de l'émergence du mot Occitanie va permettre peut-être une représentation à l'extérieur nettement, va susciter de l'intérêt. Voilà. Alors, des signes en cohérence culturelle et identitaire. qui sont à destination des territoires autochtones, par exemple des investisseurs, mais aussi des visitants et des touristes. Voyez. Donc là, on a la nécessité de se dire. Alors si on se dit, il faut définir ce que c'est que l'identité. Et là, on tombe encore sur tout un tas de problèmes qui ont causé des guerres entières pour ça. Hein. Et il y a des gens qui se sont tués. Alors la notion d'identité, eh bien, jusqu'à très peu de temps, eh bien, on peut dire que c'est un synonyme de culture. Et là, vous avez des grands courants, bon, je ne vais pas revenir là-dessus sur les aspects épistémologiques, en interactionnisme symbolique, eh bien, on voit que dans les années 60-70, on a critiqué fortement ce qu'on appelle l'approche essentialiste de la culture, comme si la culture, c'était comme un génome qui viendrait de la nature. Absolument pas. Les approches constructivistes ont expliqué que la culture, ça, c'est une histoire de construction. Et vous avez des grands auteurs comme Bourdieu ou Thiès qui ont fortement critiqué cette approche essentialiste. Et puis, cette approche d'identité a révélé des liens et des tensions au niveau de l'identité. On a trouvé des niveaux d'identité qui sont celles, l'identité collective, l'identité sociale, l'identité individuelle. On va voir qu'elle est maintenant multiple et on va vers des endroits où on peut être à la fois occitaniste et rappeur. Ça ne pose pas de problème. Deuxièmement, les chercheurs ont révélé ce qu'on appelle les stratégies identitaires qui ont proposé le fait de critiquer des notions de la tradition. Je vais revenir tout à l'heure. L'invention des traditions. Qu'est-ce que c'est que la tradition ? Et on a révélé ce qu'on appelle des stratégies d'acteurs. Il y a derrière la notion d'identité des enjeux de pouvoir pour les individus et pour le groupe qui vont se reconstruire ou construire l'identité en ayant recours aux traditions et à l'authenticité. Alors j'aime bien cette maxime d'Avanza et La Ferté qui disent « Comprendre comment une nation, région ou ethnie, tout inventée soit-elle, a pu s'affirmer comme principe de définition de soi pour un groupe ou un individu. » Pensez à tous les groupes régionalistes des années 70 qui ont dû batailler pour se construire. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ben, ils ont essayé d'aller puiser dans le passé, de construire leur propre identité. De l'identité au sentiment d'appartenance. Alors, nous, on a un gros problème en anthropologie avec cela, parce que le terme d'identité, c'est un terme qui est tellement politique qu'on va se dire c'est réservé aux catégories de la pratique, c'est pas réservé aux catégories de la pensée ou de l'analyse. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup trop de luttes derrière, il y a beaucoup trop de luttes. Donc, on n'est pas serein, on ne peut pas, en tant que scientifique, travailler sur ce sujet. Donc on l'a abandonné, nous les anthropologues, on a abandonné la notion d'identité pour avoir trois concepts qui sont un peu plus proches, mais qui sont un peu plus lénifiants en sens d'apaisant, hein, et aussi opérationnels. On va parler d'identification, vous voyez, identité, identification, c'est moins polémique. On va parler d'image sociale, là on va aller vers les sociologues, hein, ou alors on va pas simplement parler chez les anthropologues de sentiment d'appartenance. Ça fait moins mal, hein, sentiment d'appartenance, et c'est plus calme, hein, pour réfléchir. Donc tout ceci, tous ces termes-là, ces trois termes-là, sont moins connotés et moins polémiques. Maintenant, on va poser la question de savoir si les relations entre identité régionale et industrie créative ont donné lieu à des études. Eh bien oui, ils ont donné lieu à de nombreuses études dans différents domaines, que ce soit en politique culturelle. Vous regardez par exemple un chercheur qui est ma collègue, en fin de compte c'est mon chef, hein, c'est Anne Gombeau à Bordeaux, qui a travaillé sur les politiques territoriales de culturelles. Il y a des gens qui ont travaillé sur les sociologies du tourisme. Il y a des gens qui ont travaillé sur le tourisme culturel, sur le marketing touristique. Vous voyez, on va de plus en plus du côté opérationnel, hein, savoir comment on va réussir à fabriquer de la valeur et à produire de l'économie, jusqu'à les stratégies marketing. Et en gros, vous avez... moi, quand je présente ça, c'est carrément un gros mot pour la plupart des gens qui sont dans le milieu linguistique, hein, qui s'intéressent aux langues régionales. On dit, est-ce que le sentiment régional peut être un levier d'action marketing ? Eh bien oui, 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 il peut être un levier de marketing et peut-être un moyen de revivifier la langue. Hein, voilà. Donc c'est pas sale, c'est simplement créer de l'activité. Alors, deux concepts sont incontournables et nécessaires au débat, c'est les termes d'authenticité et tradition. Alors je vais faire rapidement un tour de ces notions-là et on va d'abord regarder ce qu'on entend par authentique. Qu'est-ce que c'est qu'une langue authentique ? Qu'est-ce que c'est un plat authentique ? Qu'est-ce que c'est le cassoulet toulousain authentique ? Alors à Nîmes, je ne sais pas quelle est la spécialité gastronomique. La brandade. C'est à base de morue. Gagné. Alors, la brandade de morue, la vraie de vraie, hein, vraie par essence, attestée, certifiée, non douteuse. Celle que je vais acheter à Intermarché ou à Lidl, hein, sous plastique, est-ce qu'elle va être qualifiée d'authentique que celle que je vais acheter chez le petit pêcheur voilà. Donc là, on a des nombreuses évolutions, définitions et des évolutions de sens. Alors en anthropologie, il y a les approches postmodernes de la notion d'authenticité et le sens strict est complètement irrecevable. Pourquoi ? Parce qu'en anthropologie, désormais, on dit une chose, la culture, ben, il n'y a pas de culture authentique. Il n'y a que des mélanges, il n'y a que des hybridations, il n'y a que des intercroisements. C'est très simple. Vous avez Grzinski en 99 qui a réexpliqué que les isolats culturels, hein, qui sont parfois défendus par des groupes extrémistes, notamment plutôt de ce côté-là, enfin de ce côté-là pour vous, disent on veut une culture pure, on veut un peuple pur, etc. Eh bien, c'est une aberration scientifique. C'est une aberration scientifique. Il y a des constructions ethnologiques, historiques, qui sont instrumentalisées politiquement. Mais nous sommes tous la résultante d'hybridation. Désormais, vous avez des approches qui sont dites constructivistes, qui parlent d'authenticité comme une construction sociale du statut de l'objet par les acteurs. C'est les acteurs eux-mêmes qui vont traduire, qui vont dire qu'est-ce que c'est qui est considéré comme authentique. Vous allez avoir une définition, madame va avoir une définition, on va négocier et on va trouver ce qu'on va pouvoir faire après. Alors, l'authenticité en tant que construction sociale, eh bien, elle requiert tout un tas de choses. Elle requiert des preuves, des pédigrés. Un certificat, la morue avait bien deux endroits, de généalogie, hein, un tableau, un chien, etc., pour qu'il soit authentiquement... voilà, il faut une généalogie. Il faut des indices, des marques, des patines, des stigmates. Regardez les arènes derrière. Des stigmates, elles ont souffert. Des symboles, des signes, des emblèmes, des drapeaux, etc., etc. Il faut aussi des actes. Ça peut être des faits historiques. Hein, je ne vais pas parler, par exemple, de la croisade des Albigeois, par exemple. Hein, les lieux, des mythologies. Il va falloir des classements, des attributions, des appellations d'origine territoriale. Le roquefort, il est de Roquefort. Voilà. Il n'est pas du Canada, comme j'ai vu la dernière fois que je suis allé au Québec. Des cadres, des reliquaires, des sanctuaires, des musées, et bien sûr des institutions, des territoires, des paysages de référence. Donc vous voyez que dès que vous voulez mettre en place une politique territoriale, il y a tout un tas de... je dirais, des preuves à passer pour pouvoir se référer à un terme d'authenticité. Donc, les anthropologues évitent le terme d'authentique et ils parlent de symbolique, significatif, pertinent, cohérent. Moi, j'aime bien le mot cohérent. Ça me semble le plus approprié. Qu'en ont fait les marketeurs ? Les marketeurs, et dans le management, ils ont utilisé l'authenticité pour analyser le comportement du consommateur, pour savoir qu'est-ce que c'est, comment elle est perçue, cette authenticité. Alors maintenant, on ne parle plus d'authenticité pure, on parle d'authenticité perçue. Qu'est-ce qu'on va concevoir dans l'authenticité ? Alors ça va être au cours d'événements dits expérientiels. Alors je vais vous apprendre quelque chose. Maintenant, vous êtes un touriste moderne, mais qu'est-ce que vous allez faire ? Eh bien, vous allez vivre une expérience, vous allez rechercher une expérience, non pas simplement être sur le sable et vous dorer d'un côté et de l'autre, mais vos vacances, vous allez vouloir vivre une expérience. C'est ce qu'on nous parle de tourisme expérientiel. Et vivre une expérience, c'est non pas consommer un produit, c'est consommer de l'imagination. C'est-à-dire qu'on ne vous vend plus quelque chose, on vous vend tout ce qui est autour de cette présentation. Et là, par exemple, je vous donne un exemple. Hein, c'est le contexte et des objets précis. Alors, en œnologie touristique, hein, vous savez que nous sommes quand même en Aquitaine, la région de Bordeaux. Vous savez, c'est ce truc rouge et alcoolisé que l'on boit. Eh bien, il y a eu tout un tas de tourisme expérientiel, le tourisme œnologique qui est en train de se créer. On fait visiter un château patrimonial, on fait déguster, on fait venir un artiste et on crée de l'expérience. Vous vous souviendrez toujours de cette dégustation à Béchevel. Béchevel, vous connaissez un des vins les plus réputés de Bordeaux, qui se trouve juste à l'extrémité de la Gironde, avec un des plus grands châteaux. On l'appelle le Versailles bordelais. Je ne sais pas pourquoi on a encore besoin de faire référence au nord, alors que le bâtiment est même. Il s'appelle Béchevel parce qu'il appartenait à un amiral, et chaque fois que des bateaux passaient sur la Garonne, sur la Gironde, ils devaient baisser les voiles face à ce château pour faire honneur à l'amiral. Voilà, voilà. Et c'est un des meilleurs crus que j'ai pu goûter dans ma longue vie. Alors, la visite d'une facsimilée d'une grotte, vous savez ce qui se passe en Périgord ? On est en train de construire Lascaux, on en est à 4. Hein. Voyez l'authenticité où elle est. Hein. D'accord. La première, elle est plus visible depuis 1962. Hein. La deuxième, elle a souffert et elle fait souffrir l'autre. La troisième, elle est en visite dans le monde entier, ou elle est peut-être passée à Nîmes, je ne sais pas. C'est une visite, une grotte qui circule, une qui bouge. Et la dernière, qui va être inaugurée en décembre prochain, sera sur place et ça va être un Disneyland, mais préhistorique. Vous voyez le sentiment que j'ai par rapport à cette grotte. Voilà. Donc, pour le marketeur, on parle d'authenticité perçue. Alors, bon, je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que ça pourrait être... Mais il y a 5 façons de percevoir. Donc, c'est tous les éléments, si vous voulez le retrouver. Alors, j'ai laissé les papiers hein, pour discuter, pour pouvoir... Il y a tout un tas de passages pour savoir comment on peut décider de cette authentification. Deuxième point, la tradition. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de tradition ? Alors, il faut savoir que la notion de tradition, elle est fortement amarrée à celle d'authenticité. Alors, il y a des définitions académiques. Alors, je vous la donne, celle-ci, l'ensemble des institutions, normes, croyances, rites, savoirs et savoir-faire qui s'imposent à la société, aux groupes, aux individus, au nom de la continuité nécessaire du présent et du passé. C'est ça, la tradition. La tradition, c'est qu'est-ce qui est le mot le plus important ici ? C'est l'histoire de continuité. Mais ce sont des croyances. Mais ce sont des représentations. Mais ce sont un certain nombre de normes. Dans le cassoulet toulousain, on met une proportion de graisse d'oie. S'il n'y a pas de graisse d'oie, ça ne marche pas. Donc là, on est dans la tradition. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la tradition ? On a deux façons qui s'opposent de concevoir le changement. Vous avez les sociétés traditionnelles. Pensez, par exemple, aux sociétés africaines, dites traditionnelles, parce qu'encore, tout ça est questionnable, où l'impératif principal, c'est celui de continuité, reproduction. Et puis, nous, on a subi ce qu'on appelle le modernisme, hein, la notion de modernisme. Ces sociétés modernes qui ont, elles, un impératif de changement. Alors, vous imaginez que dans les sociétés dites modernes, l'impératif de changement va bousculer tout ce qui est les notions liées à la tradition. Alors, la tradition, il y a Max Weber, hein, il n'est pas occitan du tout, il est plutôt allemand. Il nous dit que c'est un univers de signification collective qui va nous permettre d'accepter le quotidien et de croire qu'il s'agit d'une norme pour l'action. Voilà, c'est-à-dire que voilà. Il impose de se conformer à un sens, un transmis de génération en génération. Ça, c'est une façon de concevoir la tradition, moi qui est intéressante, parce qu'elle décrit un processus. Et puis, il y a d'autres conceptions. Et vous avez par exemple Hobsbawm, qui nous rappelle, faites très attention, la tradition que l'on va évoquer, eh bien, elle est purement inventée. Elle a été inventée à un moment donné. Et cela peut être extrêmement récent. Je reprends tout à l'heure ma carte du Périgord avec ses Périgord vert, Périgord blanc, Périgord pourpre et Périgord noir. Il y avait certes une notion de Périgord noir qui existait, mais maintenant c'est passé. Et maintenant, vous avez des gens de 50 ans qui disent « le Périgord pourpre a toujours existé ». Non, le Périgord pourpre n'a pas existé. C'est une invention touristique des années 80. Voilà. Donc, la tradition n'est pas pure répétition. Et sa caractéristique par essence est d'actualiser le passé dans le présent. On en fait quelque chose, mais c'est une actualisation, donc ce n'est pas une tradition. Alors quand on travaille sur la notion de tradition, il y a Ballandier qui a proposé 3 idéotypes. Des idéotypes, qu'est-ce que c'est ? C'est des manières rapides de penser la complexité dans des grands cadres. Hein. Ça sert à ça, des idéotypes. Hein. Voilà. Ce n'est pas le type idéal, hein. Ce n'est pas un gendre ou quelqu'un que vous voulez épouser. Hein. Donc c'est une façon de sauver. Donc il a proposé trois idéotypes principaux et j'ai essayé de les expliquer par des exemples. Il y a ce qu'on appelle le traditionnalisme fondamental. Et en Périgord, nous, on a une perle. Alors, vous connaissez bien mieux que moi le mouvement Félibrige. En Dordogne, on a quelque chose qui est très vivant, qui s'appelle l'Ubourna. L'Ubourna, qui organise depuis maintenant, ça date de 1898, je crois, chaque année, la Félibrigeado, la Félibrée, qui est une des fêtes les plus courues du Périgord, où on avait cette année 20 000 personnes. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire ? Dans un village, vous avez 20 000 personnes qui débarquent parce que ce village s'est préparé pendant un an. D'accord ? Ça s'appelle la Félibrige. C'est des queues de comète du mouvement Félibrige qui est là, mais qui est encore extrêmement. Et nous avons là, dans ce Bourna, des gens qu'on peut qualifier de traditionnisme fondamental, qui ne se réfèrent qu'à une doxa, qu'à un respect d'une authenticité, et j'aurais dû mettre « une » entre guillemets, et pas « authenticité » d'ailleurs, pour bien comprendre, qui est ce qui est leur conception de l'authenticité. Ils ne sont que dans la reproduction dite folklorique d'un passé imaginé qu'ils considèrent comme pur et authentique. Et jusqu'il y a 3 ans, on avait des catastrophes culturelles totales. Catastrophe culturelle totale, c'est-à-dire qu'on avait ça partait en eau de boudin, c'est-à-dire on avait des choses qui étaient catastrophiques, uniquement fondées sur une reproduction imaginée du passé, et on n'était plus dans l'objectif principal de la fondation du Félibrige, notamment en Périgord, qui était la création, notamment littéraire, artistique, poétique, musicale, qui devait être un jaillissement, un endroit où on allait faire de la langue. Donc c'était devenu du grand n'importe quoi, une fête commerciale où on avait les stands Peugeot, qui côtoyaient des joueurs de vielle et grelette qui ne savaient pas jouer, etc., alors qu'il y a des formidables musiciens et des formidables luthiers, notamment en Dordogne. Deuxièmement, vous avez ce qu'on appelle le traditionnalisme formel. Le traditionnalisme formel, donc chacun avec, dans vos régions, vous pouvez essayer de faire, qu'est-ce que je mets dans quoi là ? J'ai mes exemples locaux, qu'est-ce que ça pourrait être ? Dans quoi je vais les qualifier ? Le traditionnalisme formel, c'est l'incorporation de modernité dans des pratiques, par exemple la gastronomie régionale. C'est, on va puiser dans le passé, et puis le modernisme va nous obliger à changer. Pourquoi ? Par exemple, il y a des normes. Je ne peux plus mettre de lait pas pasteurisé dans la fabrication de mon gâteau à je ne sais pas quoi. Donc on n'est plus dans la tradition, puisqu'on n'utilise pas du lait, on utilise différents. Donc on va puiser dans la tradition, on va s'en revendiquer, mais on va avoir un certain nombre de formalismes qui vont être là. Et puis il y a le troisième point, qui est celui qui peut-être me pose le plus de problèmes actuellement dans les politiques territoriales, c'est le pseudo-traditionnalisme, c'est-à-dire la tradition carrément réinventée, je parle même plus de rebricolage. Alors, on aime bien le terme bricolage généralement, c'est plutôt laudatif pour nous, le terme bricolage en anthropologie, où on va faire des mises en scène de sites touristiques. Et nous, en Dordogne, en Dordogne, avons des villages médiévaux. Carrément, vous rentrez, vous avez le passeport, vous êtes au XIIIe siècle. Des villages d'artisans du XIXe siècle. Vous avez. Tout est reconstitué, mélangé avec ça. Et c'est pratiquement une aberration totale. Et puis on a aussi ce qu'on appelle nos préhistoriques parcs. Donc ça pose un grand problème. Pourquoi ? Parce que dans une politique territoriale, à terme, très vite, les gens de l'extérieur se rendent compte du caractère tout à fait fake. Alors là, j'emploie un mot anglais. Fake, ça veut dire artificiel, qui n'est pas réel, qui est le contraire de l'authentique. Et ça ne marche pas très très longtemps. Et pourtant, vous avez des soutiens, des politiques locales qui donnent de l'argent pour ce genre de choses, qui donnent de l'argent au lieu d'aller voir comment on pourrait faire autrement. Alors là, qu'est-ce que c'est ? En marketing, on dit que c'est des pratiques de dévoiement. On parle de mise en scène de sites touristiques où le touriste va combler son désir de continuité, de repères stables et d'authenticité, mais il y a beaucoup de détracteurs. C'est comme ça qu'ils font venir les gens. Vous allez venir dans le village médiéval, vous allez retrouver des choses merveilleuses, mais c'est simplement du dévoiement. Et on parle même de Disneylandisation. Alors, j'ai un témoignage ici. Alors, je ne sais pas si on a le temps de le lire rapidement. Vous me dites si je suis vraiment trop long. Mais j'aime bien, c'est un carnet de voyage. J'ai pris un exemple lointain pour que vous compreniez vers quoi il ne faut surtout pas tendre. J'avais lu que ces montagnes abritaient des populations des ethnies Miao et Li à mon arrivée au village. Il fallait payer un droit d'entrée et des enceintes, diffuser un morceau de Céline Dion, joué par une sorte d'ocarina. C'était encore un parc avec des indigènes témoins, et des manèges, devant l'entrée, un couple d'Anglais désorientés par la tournure que prenait leur excursion anthropologique. Déception des touristes occidentaux qui, écœurés par la vulgarité de nos sociétés du spectacle, pensent trouver ici l'illumination de l'authentique et se trouvent confrontés à une muséification planifiée d'un territoire. Dites donc, vos sauvages là, ils ne seraient pas un peu surfaits ? Voilà, fake, on pourrait l'employer. Semble-t-il s'étonner quand l'autochtone accepte l'American Express. Voilà. Et ça, on va, si vous regardez dans vos territoires, on retrouve tout un tas de zones qui correspondent à cela et qui sont faites comme ça sur fondement d'authenticité et de tradition. Alors, conclusion sur la position anthropologue. Les traditions sont volatiles, historiquement datées et reconstruites à des fins politiques. Donc, si vous êtes conscient de ça, on peut faire mieux. Certaines traditions culturelles que l'on croit très anciennes, eh bien, elles sont très récentes. Vous êtes peut-être allé en Afrique du Nord, eh bien, vous allez dire « Ah, je vais là-bas, je vais découvrir le thé à la menthe ». Eh bien, il faut savoir que le thé à la menthe, ça date de fin 19e, début 20e, introduit par les Anglais. Alors, vous voyez, de la grande tradition maghrébine, non. La tradition à recours est de l'ordre des stratégies identitaires, c'est-à-dire qu'on choisit cela pour quelque chose où les communautés vont s'approprier des images, des représentations et des normes. Et puis... Dernier point, c'est quand même Bayard, le grand théoricien du postmodernisme. Les revendications d'autonomie, la mobilisation politique, les mythes fondateurs et héros, tout ça, c'est bien de la construction. Alors, la dernière partie de ma présentation, je me pose la question de savoir quels mouvements sociologiques et historiques récents ont contribué à l'abandon des langues régionales et de la pratique, et à leur oubli dans les politiques locales et dans le développement du territoire. Donc là, je ne remonte pas à l'histoire, par exemple, de l'Occitan, qui a été abandonné grâce à notre François Ier, etc., etc. On va juste regarder depuis l'époque récente. Qu'est-ce que l'on a ? On a notre époque, notre État français, jacobin, qui a permis ce qu'on appelle les politiques centralisatrices, avec... comme explication Bourdieu. Bourdieu est là pour nous dire qu'est-ce que c'est ? Eh bien, on a le modèle de la distinction. C'est-à-dire que, petit périgourdin, qu'est-ce qui va me faire envie ? Qu'est-ce que je vais recevoir comme information par ma socialisation ? Qu'est-ce qui va me faire voir ? Qu'est-ce qui est bien ? Qu'est-ce qui pourrait être bien pour moi dans ma vie ? Eh bien, tout mon regard est attiré par quoi ? Par Paris. Par Paris. Et les normes parisiennes s'imposent partout et se sont imposées partout, notamment en politique culturelle, politique d'enseignement et dans les politiques de communication. Et on essaye, dans les territoires locaux, de reproduire exactement les mêmes choses, alors qu'on n'a, un, pas les moyens, pas les mêmes ressources, pas les mêmes personnes. D'accord ? Donc ça, on a ce phénomène purement français. Ce n'est pas le cas en Grande-Bretagne, ce n'est pas le cas en Allemagne, ce n'est pas le cas en Espagne, ce n'est pas le cas en Italie. Nous avons cette histoire de centralisme qui est vraiment dans nos façons de concevoir ce que peut être une politique territoriale. Donc vous allez avoir ce système des DRAC, etc., là, qui impose une doxa avec un système d'identification préférentielle qui est celle de Paris. Et on va vouloir reproduire, et on oblige même les gens sur les territoires à le faire, puisque c'est des normes dictées par Paris. Alors là, moi, j'ai dans la salle, vous avez un directeur de conservatoire, hein, eh bien, ils doivent suivre, pour pouvoir avoir l'agrément, ils doivent suivre des directives qui viennent de l'État français, qui disent, ben, vous devez avoir ça, ça, ça et ça. Et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas dicter une politique musicale liée au territoire, sur nos ressources propres territoriales ? Et puis, il y a un deuxième mouvement. Donc, il y a la France, et puis il y a le deuxième mouvement, qui est celui-ci, beaucoup plus universel, qui est celui de la globalisation, mondialisation. Alors vous savez ce que c'est ? C'est depuis les années 90, on en parle fortement, cette histoire de uniformisation. On va tous la même chose, on consomme de la même manière, etc. Eh bien, on propose des offres touristiques identiques partout, ce qu'on appelle la Disneylandisation. J'arrive jamais à le dire, ce mot-là. Et on va, par le là même, dénigrer la fameuse vergogna. On va dénigrer l'attrait du local. Le local perd de sa substance. Pourquoi ? Parce que c'est le lointain qui prime. C'est vos enfants qui veulent aller aux États-Unis, faire leur vie aux États-Unis, qui ne parlent que par le soft power, qui pour moi n'est pas un soft power, par exemple, qui est celui du cinéma, qui est celui de la vidéo américaine sur notre façon de concevoir la culture.
À causer la première partie de la conférence préposée par Jean-Yves Agar, docteur en sociologie, qui est préposé d'autant de l'Universitat Occitana d'Estio de Nîmes de 2016, une réflexion sur l'Occitan, facteur de développement du territoire.